Bonjour et bienvenue au podcast Culture Inc. On débute une série spéciale de quelques épisodes que l'on nomme Culture et quarantaine. La pandémie COVID-19 a récemment débarqué en Amérique et a forcé les entreprises à soit fermer ou à revoir ses pratiques de travail. Durant cette série, on s'intéressera sur l'aspect culture organisationnelle à travers la transformation des entreprises due à cette pandémie. Pour le premier épisode, on focus sur les premiers moments, lorsque les entreprises et gestionnaires ont commencé à considérer ce virus comme étant un possible danger, comment s'est pris la décision de travailler à distance, comment cette décision a été communiquée et les premiers impacts des premiers jours en quarantaine. Durant cet épisode, vous entendrez 4 intervenants, dont 2 qui sont déjà passés au podcast dans des épisodes précédents. Anne-Laure Marcadet et Marie-Ève Champagne ont déjà participé au podcast, épisodes 3 et 14, respectivement. 2 nouveaux participants, Laurent Duberger et Julie Potvin-Tremblay. Je vous ferai de plus grandes introductions de chacun au début de l'épisode. À noter finalement que tous ces enregistrements ont été faits à distance par outils de télécommunication IP, donc la qualité audio n'est pas la même que les épisodes précédents, et quelquefois, vous le remarquerez, quelques petits accros de voix sont perceptibles. C'est la réalité du téléenregistrement. Sans plus tarder, voici donc l'épisode 1 de Culture et quarantaine, décision et transition.
Nous, ça a vraiment, c'est devenu un sujet d'entreprise officiel il y a exactement une semaine.
Laurent Duberger, il est coach agile chez Element AI, entreprise bien connue à Montréal en intelligence artificielle.
Il y a 8 jours ou 9 jours, c'est juste quelque chose qui se passait ailleurs, puis qui affectait les autres. Puis nous, on était un petit peu épargnés, puis on voyait ça arriver. Puis c'est comme ça, on est debout devant un tsunami qui s'en vient, puis on est comme, ouais, c'est ça, ça s'en vient. Puis là, whoops, faut courir.
J'ai demandé aux invités de cet épisode de décrire les premiers moments que leur entreprise ont appris l'existence de ce virus et comment c'est devenu un sujet principal d'inquiétude et de discussion. Vous reconnaîtrez ici Marie-Ève Champagne, spécialiste santé, sécurité et mieux-être au travail, invitée de l'épisode 14. Et petit point pour ceux qui écoutent le podcast en dehors du Québec, Marie-Ève fait référence à Legault à quelques reprises, François Legault étant le premier ministre actuel du Québec.
C'est sûr que c'est passé de « ça se passe en Chine » « Oh, c'est l'enfer en Italie », puis Legault fait un point de presse, Legault annonce des mesures, ça a été graduellement intégré. Et quand il y a eu l'annonce du télétravail, ceux qui le peuvent faire du télétravail, c'est là que la débandade a commencé. C'est là qu'il y a vraiment eu une prise de conscience que j'ai remarquée au niveau des entreprises avec qui moi j'étais en contact. Il y avait déjà eu des effets parce que la Chine, c'est le poumon économique de la planète. Donc, la Chine étant au ralenti, c'est sûr que c'est impossible dans cette ère de mondialisation-là qu'on n'en ressente pas quelques effets. Mais c'est comme tout le restant. On est une culture privilégiée. Québec, il n'y a pas grand-chose qui nous atteint. Ben là, ça nous atteint.
Anne-Laure Marcadet, cofondatrice de Chroma Conseil et Coaching, consultante en entreprise au niveau stratégie et leadership, invitée à l'épisode numéro 3 de Culture Inc.
Ben moi, je l'ai vu, certaines organisations qui, dès le début de la semaine passée, m'avaient contacté pour me dire, écoute, les activités qu'on avait prévues la semaine prochaine, on va te confirmer. Là, tout va dépendre de ce qui va se passer. Et j'ai celles qui n'ont rien vu venir. Donc, par rapport aux organisations qui sont autour de moi, je dirais, j'ai un petit peu de tout. J'ai celles qui ont cessé complètement leurs activités parce qu'elles sont avec des clientèles plus sensibles et fragiles. J'ai celles qui sont complètement passées en télétravail et j'ai les organisations mixtes qui ont maintenu certaines activités en présentiel parce qu'elles n'avaient pas le choix, mais en répartissant, par exemple, les équipes de travail à différents endroits pour éviter une contamination d'un secteur clé, par exemple. Et tous ceux qui ont pu passer en télétravail sont passés en télétravail. Mais je vous dirais que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens n'ont pas vraiment réfléchi. Ils ont suivi les consignes pratiquement à la lettre. Et je pense que les questions vont venir si la pandémie s'éternise.
Oui. Tout le monde espère que ça soit quelque chose de temporaire, mais avec plus les jours passent, plus on voit que ça sera pas si temporaire.
Julie Tremblay-Potvin, fondatrice de l'entreprise De Saison, boîte conseil en stratégie organisationnelle, communication et mobilisation. Julie nous relate les premiers instants où les entreprises ont décidé de réagir à l'arrivée de la pandémie en sol québécois.
Moi, j'ai vraiment l'impression que que les gens attendaient une directive claire. Quand les directives sont venues, ça s'est enclenché rapidement. De là à dire est-ce que les entreprises ont été d'avance là-dedans, je pense pas. Je pense que les gens étaient pris dans leurs opérations, faisaient leurs trucs, puis là, il y avait ça un peu en arrière-plan dans les nouvelles, puis là, ça les concernait pas trop. Puis à un moment donné, oh pof, là, c'est nous, là, c'est OK, faut faire quelque chose. C'est tout dépendant des organisations, savoir s'ils étaient organisés pour le travail à distance ou pas. Ça a été plus ou moins vite, là. Il y en a pour qui ça a été instantané dès le vendredi, parce que en fait, ils ont fermé les écoles le vendredi. Puis je pense que c'est ce qui a donné un coup, là. Tout le monde était un peu à la maison avec les enfants, fait que ça a aidé. Puis là, ben les gens se demandaient, on va-tu retourner à l'école lundi? Fait que là, ça a comme continué. Fait que ça a donné une journée tampon, on dirait, pour se préparer. Parce que là, rendu vendredi, les gens étaient comme un petit peu plus conscients, étaient un petit peu plus à l'affût. En tout cas, ça s'est fait... moi, dans les entreprises, là, autour de moi, ça s'est fait quand même assez graduellement. Mais c'est les directives gouvernementales qui ont guidé les organisations là-dedans.
Ouais, en fait, c'est pareil pour nous. Il y a certaines personnes qui avaient commencé à travailler de la maison, qui étaient un petit peu, avec le recul, qui étaient plus lucides. À ce moment-là, on se disait, sont même inquiets. Tu sais, donc, dans le fond, on était, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on voyait un tsunami arriver, puis on est comme, ah, il est loin. Ah, puis c'est correct. Tu sais, donc, nous, c'est vraiment, bon, il y a quelques personnes qui travaillaient à distance. Mais, comme tu dis, Julie, ça s'est passé comme ça chez nous aussi. Les directives gouvernementales sont tombées. Puis ça a vraiment accéléré toutes prises de décision chez nous. Puis là, c'est sûr que tout dépendant de la maturité technologique ou culturelle de l'organisation, ça peut plus ou moins bien se passer. Chez nous, on a été chanceux quand même. On a un environnement technologique assez de pointe, là. Puis on a des gens chez nous qui sont assez familiers avec l'utilisation de ces outils-là. Donc, on est chanceux là-dessus. On est bien équipés. Puis les gens sont allumés, puis sont conscients de tout ça. Donc, mais oui, la décision de travailler à distance a été dictée par ou précipitée par les directives gouvernementales, mais néanmoins, on était prêts. On avait prévu justement jeudi dernier, avant qu'il y ait toutes les annonces, on avait prévu de faire, à partir du lundi suivant, donc lundi dernier, on avait prévu de faire travailler la moitié, donc 50% de notre personnel de la maison, puis 50% au bureau, pour nous pratiquer à l'éventualité qu'on soit peut-être tous poussés à travailler remote. Donc, puis on, tu sais, moi, j'ai entendu ça mercredi passé, comme qu'il allait avoir cette annonce-là le lendemain. Puis je me disais, waouh, on est bien hot de prendre de l'avance de même. Ça, c'est cool, tu sais. Puis finalement, on était vraiment pas en avance, là. Je veux dire, la décision de fermer des écoles est arrivée le vendredi. Fait que ça a juste accéléré ce qu'on avait mis en place ou ce qu'on avait prévu, mais...
Les entreprises ont dû prendre la décision de fermer ou transférer les activités à distance. Cette décision peut provoquer des émotions fortes chez les collègues et la bonne communication des gestionnaires d'entreprise à ses employés face à ce changement a été primordiale. Anne-Laure nous partage ses observations face à cette communication.
Je vous dirais, oui, puis ça dépend aussi de la propre résistance au stress du gestionnaire. Mettons que vous avez quelqu'un qui, naturellement, est capable de transférer, de transmettre les messages sans transmettre toute la panique, c'est sûr que c'est un gain. Maintenant, il y a quatre grands stresseurs. Et le problème avec le coronavirus, c'est que les quatre stresseurs sont présents et qui risquent d'aller en s'intensifiant. Donc, le premier, là, au niveau des gestionnaires, c'est sûr que le fait de partir en travaillant à distance fait qu'ils vont avoir de moins en moins de contrôle sur la situation. Donc, le premier stresseur qui peut, moins ils ont de contrôle, plus ils risquent d'essayer d'en prendre ou en tout cas de paniquer. Le deuxième grand stresseur qui est l'imprévisibilité. Donc, celui-là, je vous dirais, l'imprévisibilité avec le coronavirus est pas mal là. Et le fait de gagner du temps avec le confinement.
Ah, on est dans le tapis.
C'est ça, on est dans le tapis, mais au moins, on va essayer de voir, d'apprendre des autres et de pouvoir essayer de collecter le maximum de données pour évaluer la gravité. Le troisième, c'est la nouveauté. Donc, c'est quelque chose, non seulement le coronavirus, mais d'avoir un confinement comme ça, c'est vraiment une nouveauté pour les entreprises. Et le dernier, donc la menace à l'ego, donc qui nous fait paniquer parce qu'on n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut pour pour en termes de compétences, puis là je parle en termes de vaccins ou de traitements pour gérer ce coronavirus. Donc les quatre stresseurs sont là au niveau des gestionnaires. Donc dépendamment de s'ils ont une bonne capacité déjà naturellement à gérer leur stress ou pas, ben, le fait d'avoir imprévisibilité et très peu de contrôle peut les rendre encore plus paniqués. Et le contrôle, c'est non seulement sur la pandémie, mais c'est sur contrôler le travail de mes employés. Vous avez certaines organisations pour qui le travail à distance n'est pas une option parce que le travail se contrôle en fonction du temps passé à travailler. Donc, si mes employés sont à distance, comment est-ce que je vais pouvoir les contrôler? Et le lien que je fais avec la culture d'entreprise, c'est vraiment ça. Quand on est capable de se préparer à l'avance, notamment au niveau du télétravail, on est capable aussi de donner une valeur au travail qui n'est pas seulement en fonction du nombre d'heures passées devant l'écran ou à faire une tâche, mais en fonction des différents livrables. Mais c'est un changement de mentalité qui est quand même assez drastique.
Tout à fait.
Les organisations qui vont être les plus, les gestionnaires également qui vont être les plus préparés sont ceux qui ont déjà testé ou qui savent déjà que contrôler le travail peut se faire différemment, que comment est-ce qu'on est capable de prioriser les activités à mettre à distance, à garder sur place et d'avoir ce bon jugement, on va dire. Donc, c'est un petit peu comme un réflexe, mais c'est sûr qu'il y a certains dirigeants qui vont paniquer, notamment si ça dure vraiment dans le temps.
Les entreprises ont dû réagir rapidement le temps d'un week-end et certaines opérations ont dû être rapidement ajustées. Anne-Laure Marcadet, au sujet de ces premiers ajustements d'entreprise une fois que les employés sont demandés de travailler de la maison.
L'annulation de toutes les activités non prioritaires en termes de formation, en termes de rencontres d'équipe. Donc, une grande partie de ce qui peut être au niveau de la planification, la formation, ça c'est sûr que c'est devenu... C'est pas passé numéro un. Moi, j'étais en lien avec les RH d'une grande entreprise. Donc, ça a été comment est-ce qu'on est capable de mobiliser rapidement puis d'outiller tous nos conseillers RH pour qu'ils soient capables de répondre à des appels de nos 35 000 employés qui, d'un seul coup, vont commencer à se dire ben, qu'est-ce qu'on fait en termes de sécurité. Donc, ça a été le branle-bas de combat. Là, toute l'énergie, la priorité a été de comment est-ce qu'on est capable de pouvoir répondre rapidement aux interrogations. D'autres, ben, ça a vraiment été mis en place rapidement de communication, soit par courriel, mais également par vidéo de PDG des entreprises qui eux-mêmes décident de rester en lien direct avec leurs employés. Ça a été de réorganiser des étages de services pour faire en sorte qu'on n'ait pas toute une équipe indispensable qui se retrouve contaminée avec un même virus. Donc, je dirais que c'est pas mal ça. Les activités secondaires ont toutes été mises de côté.
Le télétravail est une réalité pour quelques travailleurs et souvent que pour de courts laps de temps. Quelles sont les réalités du télétravail complet pour tous, à temps plein et en plus dans cette situation particulière de quarantaine? Julie Tremblay-Potvin et ensuite de Marie-Ève.
C'est ça, j'essaie de me rappeler le fil des événements puis... Je pense que la locomotive du télétravail, ça a été la décision de fermer les écoles. Il y a plein de parents qui se sont dit « Bon, je vais être obligée de travailler de la maison. » Ça a fait une première vague de télétravail. Puis là, moi, tout de suite, je me suis réveillée le matin et j'ai dit « Faut que j'écrive quelque chose pour aider les gens à travailler de la maison avec les enfants parce que ça va être la préoccupation numéro un. Comment je vais faire du télétravail avec les enfants autour de moi? » Puis j'avais quand même vu juste parce que j'ai soumis mon texte au journal, puis même en tout cas ils m'ont contacté entre-temps aussi pour parce que ils avaient vu le besoin aussi. Donc j'ai publié un texte lundi, je l'ai écrit samedi matin en me disant lundi il faut que ça sorte parce que c'est là que les gens finalement l'ont lancé dimanche soir. Puis vraiment, là, c'était la préoccupation, comment on va travailler avec les enfants autour. Puis j'ai des amis qui étaient dans des entreprises vraiment moins technologiques où justement le télétravail, c'était de temps en temps quand tes enfants sont malades, mais pas trop. Puis là, c'était, oh, mais là, tu vas falloir que tu t'organises hein, parce que tu ne pourras pas travailler 5 jours semaine à la maison, ça ne marchera pas, on n'est pas habitué de travailler comme ça. C'est qu'il n'y avait pas encore une grande préoccupation santé. Là. C'était plus continuer business as usual. Puis de mon côté, mon associé étant en isolement volontaire depuis le vendredi parce qu'elle revenait de voyage, on s'était dit, ben j'irai faire nos rencontres en personne, moi, puis tu sais, tu seras à distance encore là, le vendredi, même le lundi. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il y a eu d'autres directives qui, là, c'était plus, OK, on s'isole tout le monde, puis le plus possible de télétravail, puis le moins possible de rencontres. Puis là, ça a fait vraiment encore là, très rapidement, boule de neige. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations dans les entreprises, puis d'adaptation rapide. C'est sûr que les entreprises en technologie, en communication, les agences de marketing, tout ce qui est plus... plus agile naturellement de parler leur industrie, je pense que c'était plus facile, mais je pense que c'est juste dans les gouvernements là, c'était, ils étaient pas organisés comme pour ça. Il y a eu beaucoup d'achats de matériel qui étaient faits, ça demandait à beaucoup de ressources de se mobiliser, ça a créé du stress aussi je pense dans certaines équipes, donc c'est sûr qu'il y a eu une période d'adaptation, puis je sais pas comment, à quel point les gens vraiment ont pris l'horaire d'aller là, cette semaine même. Là, c'est sûr qu'il y a eu moins de productivité cette semaine, c'est certain. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptation.
Ben, c'est sûr qu'il y en a qui pouvaient le faire. Il y en a qui le faisaient à très petite dose, une, deux journées par semaine. Le gros facteur nouveau, comme Anne-Laure l'a si bien expliqué avec les quatre stressors, des facteurs très, très nouveaux et très, très perturbants et très imprévisibles, c'est la présence des enfants à la maison. C'est quelque chose qui change complètement toute la donne pour certains travailleurs. Ceux dont les enfants sont grands, ceux dont les enfants ont quitté la maison ou ceux qui en ont pas, très peu d'ondes de choc, mais essayer de faire un appel conférence avec un enfant qui a décidé que c'était précisément à ce moment-là qu'il voulait sa collation. Mm-hmm.
Le télétravail peut faire peur à certaines entreprises. Quelles sont les réticences face à ce mode de travail?
Ben, j'allais dire, c'est sûr qu'on se serait posé la question il y a deux semaines, puis on aurait dit oui, il y a beaucoup, beaucoup de réticences. Sauf que là, ce qu'on vit, c'est une accélération de toutes ces pratiques-là parce qu'on n'a juste pas le choix. Fait que, tu sais, comme dans bien d'autres domaines, là, même dans le côté politique et social, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on pensait qu'on pouvait pas faire, puis que finalement on peut faire. Parce que ça, quand ça devient une priorité, ben c'est pas long qu'on est capable de s'organiser, puis de s'adapter, puis de se mobiliser tout le monde pour changer nos façons de faire. C'est alors qu'on était très résistants avant. Fait que c'est sûr que oui, là, ça a créé beaucoup d'anxiété, sûrement. De l'anxiété de performance, je pense, parce que moi, j'ai l'impression que la plus grande crainte autour du télétravail, c'est peut-être pas la plus grande crainte, mais tu sais, c'est une des craintes, c'est de donner la perception que tu travailles moins ou que tu travailles moins bien quand tu es dans une organisation qui mesure la productivité à l'heure travaillée. Quand tu es vraiment sur les feuilles de temps, puis le temps que tu travailles, puis le présentiel, ben quand tu es en télétravail, tu as comme une anxiété de dire, OK, comment je vais faire pour montrer que j'ai travaillé quand tu n'es pas gestionnaire. Puis quand tu es gestionnaire, ben des fois, ça dépend quel genre de gestionnaire tu es, mais tu veux parler à ton monde, tu as l'impression de parler à ton monde, tu sais, puis savoir qu'est-ce qui se passe. Tu te sens au cœur de l'action. Ça dépend du type de style de gestion que tu as, je pense, là. Mais moi, je suis convaincue qu'au bout de deux semaines et plus, si ça continue, beaucoup de gens qui vont se rendre compte qu'ils étaient capables de gérer une équipe à distance là, de façon peut-être plus facile qu'ils pensaient.
Le concept de performance au travail peut être modifié lorsque tous les employés travaillent de la maison. Comment certains gestionnaires vont s'y adapter?
Je dirais que c'est vraiment très, très variable. Il y en a qui vont envoyer des courriels régulièrement pour s'assurer que les employés les lisent pour le vérifier. Moi, je ne serais pas étonnée là, si la situation persiste. On fera le bilan dans 3-4 semaines où est-ce qu'on est rendu, mais je pense qu'il va y avoir des gestionnaires qui vont devenir extrêmement extrêmement nerveux parce que justement, ils ne pourront plus le contrôler et que c'est pas en 3-4 semaines qu'on va inculquer une nouvelle façon de fonctionner qui part de donner une tâche à donner un objectif et un résultat de travail. Mm-hmm. Donc, ça va, selon moi, ça va aller... En s'accentuant, puis comme le disait Marie-Ève, on est dans des conditions qui ne sont absolument pas idéales parce que non seulement on a les enfants, on est confiné quand même chez soi. Et dernier élément à ne pas oublier, c'est que certaines entreprises n'étaient pas vraiment préparées. Donc, que quelques personnes se connectent à distance, en remote, c'est pas de problème, mais quand vous avez des accès qui sont limités par vos instruments technologiques, ben ça fait que vous n'avez pas tout le monde qui peut passer sous cet aspect-là. Et ensuite, ben, comment est-ce qu'on communique? C'est pas tout le monde non plus qui est déjà prêt à travailler avec des outils comme Slack, comme Trello, comme Zoom, comme n'importe quel autre outil. Donc, pour certains, ils l'apprennent un petit peu à la dure.
Tout à fait. Puis après ça, ben, tu sais, on a tout ce qui est pare-feu, sécurité technologique. Maintenant, ben, quels documents circulent à l'externe, quels documents ne peuvent pas circuler à l'externe, qui a besoin de quoi. Implanter du télétravail dans une entreprise, c'est des processus qui peuvent prendre pendant des mois. Ça se prépare. Et puis là, minuit moins une, en une fin de semaine, 4 jours, a fallu qu'on s'en revienne de bord. Puis c'est un apprentissage aussi. Ça s'apprend à travailler en télétravail.
Bonne question.
Pour la micro-gestion, je sais pas, mais je pense que, parce que au niveau de la culture, ce que tu dis, c'est que je trouve que souvent dans les organisations, la culture du travail est dans les non-dits. C'est pas nécessairement dit que tu t'observes, tu regardes les heures. Des fois, oui, là, mais des fois, c'est juste dans les non-dits. C'est juste que c'est dans les perceptions. Fait que c'est la gestion des perceptions. Fait que la question, c'est est-ce qu'on va avoir passer à travers des fausses perceptions, puis on va avoir changé nos perceptions, certainement à certains niveaux, mais peut-être que ça va dépendre de l'expérience que les gens vont avoir eue aussi là, pendant ces 2 semaines-là. Tu sais, est-ce que ça va avoir été une expérience positive ou non? Tu sais, on est à la fin de la semaine 1, puis j'ai hâte là, d'entendre parler des organisations un peu plus sur comment ça va, puis comment ils réussissent à prendre un nouveau rythme, puis des nouvelles habitudes ou non. ou là, finalement, sont-ils satisfaits ou pas satisfaits du travail qui est accompli pendant ce temps-là? Parce qu'il faut se dire que non seulement les méthodes changent, là, mais il y a beaucoup de stress dans les organisations, dans les PME, au niveau des modèles d'affaires, au niveau des finances. En ce moment, tout ça, c'est mélangé. Là. Toutes les émotions négatives liées aux mises à pied temporaires, là, tu sais, on parlait du crescendo, là, mais le crescendo a passé du télétravail aux mises à pied temporaires. Fait que là, tu sais, ça s'est mis à débouler sur, tu sais, comme un peu moins le fun aussi, avec plus d'incertitudes sur la pérennité des PME, entre autres. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir, je pense que ça va être intéressant de voir l'évolution de tout ça dans la prochaine semaine aussi. Puis, certainement qu'il y a des organisations qui vont, avoir réussi à se mobiliser là-dedans, à être plus forte, à se sentir plus solide, plus tissée serrée, puis plus confiante, comme tu disais, Laurent. Tu sais, je pense qu'il y a des organisations qui vont avoir réussi ça. Puis, il y en a d'autres peut-être que moins. Tu sais, puis qui vont juste avoir hâte de retourner dans leur façon de faire d'avant.
Puis, ce que tu me dis, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue aussi plutôt cette semaine avec des gens autour de moi, mais dans mon équipe. C'est que finalement, cette épreuve-là qu'on a en ce moment, oui, on cherche des outils pour travailler à distance, pour mieux collaborer. On pense beaucoup aux outils, mais moi, avant tout, je pense que tout ça, ça va être un test culturel. C'est un test de culture qu'on a, ou un test de résilience des organisations. Si t'es une organisation qui a une culture tu as besoin de voir les gens pour te sentir rassuré qu'ils soient productifs, par exemple. Quand on pense aux organisations, est-ce que le télétravail, ils sont un petit peu frileux avec le télétravail, mais tu te demandes, mais pourquoi ils sont frileux avec le télétravail? Puis là, quand tu creuses, c'est que dans le fond, les organisations qui empêchent les gens, par exemple, de travailler de chez eux, ben, c'est parce qu'ils ont peur, tu sais, ou ils font pas confiance à leurs gens d'être distants, tu sais, ils ont besoin de les voir pour les croire, tu sais, puis finalement, une organisation qui est déjà dans la confiance va être beaucoup plus facile de s'adapter à une situation où, ben, finalement, personne ne se voit. Tu sais, ça peut être extrêmement anxiogène pour une organisation où est-ce que la confiance ne règne pas, où est-ce que les gens sont je sais pas comment dire, où est-ce une culture, tu sais, plus de command and control plutôt que de confiance puis de empowerment. Dans le fond, on en a encore beaucoup parlé cette semaine, mon équipe et moi, mais on voit que dans des situations comme celle-là, tu sais, Puis je pense qu'on n'est pas la seule organisation, mais bref, chez nous, ce qui se passe, c'est qu'on a finalement, on a tous quelque chose en commun. On partage tous quelque chose. Tu sais, on est tous d'accord sur une chose, c'est qu'on partage la même affaire. On est tous remote, on est tous un petit peu stressés de ça. Puis là, ce qu'on voit surgir, c'est des choses, en tout cas de mon côté, extrêmement positives, puis rassurantes un petit peu, je pense, je peux me permettre ce terme-là, parce que on voit des actes spontanés de leadership puis de bienveillance qui font surface. Tu sais, des gens qui créent, mettons, un nouveau channel dans Slack pour donner des tips pour travailler remote. Des parents qui se donnent des conseils dans le channel de parents. T'as un concours de background bizarre de Zoom qui se crée. Tu sais, t'as plein d'initiatives qui peuvent paraître un peu triviales, mais que c'est toutes des petits ingrédients de positif puis de bonne humeur qui arrivent, puis qu'on sent toutes qu'on fait partie d'un même, tu sais, d'un tout qui se tient, tu sais, finalement. Fait que, puis je pense que ça va être une occasion pour plusieurs organisations qui ont peut-être une culture pas encore affirmée ou qui veulent peut-être faire un pivot culturel. Je pense que c'est une belle occasion à saisir de laisser la chance aux leaders naturels de faire surface avec des initiatives rassembleuses puis inspirantes puis humaines. Puis on trouvait ça justement dans le fil de cette discussion-là, quand t'es rendu à se dire ça, on s'est dit « waouh ». Le fait qu'on soit tous séparés puis qu'on ait tous besoin de technologiquement se rassembler fait en sorte qu'on peut se sentir un tout plus humain. Il y a quelque chose d'extrêmement antagoniste, de vraiment contraire dans tout ça. Puis, en tout cas, ça nous a fait réfléchir au fait que la technologie puis les outils, la technologie peut finalement des fois passer avant l'humain quand l'humain ne peut pas se voir en vrai. Tu sais, moi, mettons, dans mon travail, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup l'accent sur mettons l'humain en premier, faisons en sorte que des belles interactions puis la confiance peut être mise en place. Puis après, on parlera des outils puis des processus. Mais là, l'affaire, c'est vu qu'on n'est pas collé en tant qu'humain, vu qu'on ne se voit pas en direct, on a besoin des outils pour créer quelque chose d'humain. Tu sais, fait que c'est un petit peu renversé, puis je trouve ça fascinant à quel point que, ben, finalement, l'humain fait surface quand même à travers l'utilisation d'outils. Puis on réussit à se rassembler quand même avec la technologie.
Oui, je ferais du pouce sur ce que tu viens de dire, dans le sens où je pense que ça, c'est universel, le sentiment de faire partie d'un tout, là, de « OK, on est tous dans le même bateau ». Je pense que sur la planète en ce moment, c'est un peu ce qu'on ressent, dans la province aussi. « OK, on est tous dans le même bateau, tout le monde, on vit la même chose en même temps ». C'est très rare que ça arrive. Puis,
on est comme une grosse tribu.
Oui, puis juste avant, là, c'était beaucoup de confrontations, tu sais, beaucoup de confrontations politiques, beaucoup de confrontations dans les... Moi, je fais pas ça, tu sais, sur les... Beaucoup de chocs des points de vue, puis les innovateurs, puis les plus conservateurs, puis les progressistes. Puis tu sais, c'était ça dans les organisations aussi, là, c'est pas juste politique, là. Dans les organisations, il y a un peu cette dynamique-là aussi, par moment. Fait que là, tout d'un coup, tout le monde est dans la gang humain, isolé à cause de la pandémie, puis ça quelque chose de vraiment beau. Puis, tu sais, c'est ça que je t'écrivais, Mathieu, avant, quand tu as fait ton appel à tous là, pour le podcast, parce que moi, ce que je trouve fascinant dans les premiers jours, c'était comment ça nous propulsait vers l'avenir à vitesse grand V, en nous forçant à adopter des nouveaux modèles, des fois que les gens tardaient à vouloir adopter, ou on s'entend plus les directions, parfois, voulaient pas adopter. En même temps que ça nous ramène un peu dans le passé, ça nous ramène à la base, ça nous ramène à une certaine base humaine qui, tu sais, quand les peuples de l'ancien temps ont vécu des drames humains que nous, on n'avait jamais vécu dans nos générations, là, même la génération de mes parents n'avait jamais vécu ça non plus. Puis là, ben, tout d'un coup, ça nous ramène à la base, donc être chez nous avec nos enfants, pas pouvoir sortir, pas pouvoir... faire autre chose que cuisiner puis aller prendre une marche. Puis, en même temps, être tous humains, connectés. Puis, heureusement, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis sur Instagram, imaginez cette pandémie-là sans Internet. Ça serait complètement différent. Parce que ce qui nous permet de nous sentir aussi connectés malgré l'isolement, c'est vraiment Internet. Donc, c'est vraiment ce que tu as dit, Laurent, dans le fond, c'est que les outils nous permettent de nous sentir connectés puis de nous sentir moins seuls là-dedans. Puis, c'est sûr que ça va laisser des traces, après moi. J'espère en tout cas que ça va au moins rester un peu dans notre souvenir.
avant tout ça, avant la technologie, tu sais, mettons, 1000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, justement, on était réunis, les humains, tu sais, en tribu pour vivre et survivre, tu sais. Puis, je pense, en tout cas, j'étais pas là pour le dire, mais je pense qu'on vit quelque chose qui va nous chercher dans notre instinct profond de « on a un péril commun, gang ». C'est le temps là, de s'unir. Puis je pense que c'est plus fort que n'importe quoi. Je pense, en tant qu'espèce, on a été, les humains, on a été obligés de se réunir pour être plus fort. On n'est pas des animaux, on l'a tout vu là, en bio et tout ça, on n'est pas des animaux avec des griffes ou des dents, on n'est pas des animaux sauvages, dangereux, qui peuvent se défendre. On a besoin de s'unir puis d'utiliser nos cerveaux et notre intelligence pour survivre face à des dangers. Mais là, en tout cas, pour la première fois de mon vivant, on vit quelque chose qui est un potentiel péril, tu sais, puis c'est commun. Puis je pense que quelque part en dedans, on a cette espèce de réaction-là de « OK, là, on va faire une trêve de n'importe quel conflit qu'on a, puis on va s'entendre pour faire ce qu'il faut faire pour survivre ensemble. » Fait que je pense que oui, c'est un moment qui est difficile à passer pour l'humanité, mais au bout du compte, ça va nous rapprocher. Tu sais. C'est ça qui est tragique un petit peu dans des situations comme ça, c'est qu'on est comme obligé de passer à travers quelque chose de douloureux puis de périlleux pour passer à une autre étape. Puis je pense que c'est peut-être ça en ce moment qu'on est en train de vivre, cette espèce de passage extrêmement inconfortable du point de vue de l'humanité pour peut-être se réveiller dans un lendemain qui va être différent. Tu sais.
Est-ce que certaines entreprises passeront mieux à travers cette crise que d'autres? Anne-Laure et Marie-Ève.
Ben, je te dirais, de ce que je vois, c'est les entreprises ou les organisations qui vont passer à travers. C'est aussi celles qui ont déjà une bonne gestion du stress et une bonne gestion des risques. Est-ce qu'elles ont un dirigeant qui a une bonne gestion, une saine gestion de son stress, une saine gestion du risque? C'est-à-dire une organisation qui était quand même capable d'avoir un minimum anticipé. Donc, c'est sûr que si c'est des organisations qui étaient déjà en mode survie à avancer tout le temps sans prendre le temps de s'arrêter pour revoir la stratégie, c'est sûr que ça risque d'être difficile pour eux. Donc, tous ceux qui ont déjà pensé à ça à l'avance, donc ils sont capables quand même de prendre des mesures pour assurer la poursuite de leur activité en gardant la tête froide. Je pense que c'est déjà un réflexe qui va aider. Donc, cette capacité à se poser les bonnes questions, à aller collecter l'information pertinente pour prendre des bonnes décisions, c'est sûr que ça va aider. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il va y avoir besoin pas juste d'un coup de pouce financier au niveau gouvernemental, mais de mesures drastiques au niveau du financement pour éviter des catastrophes économiques, puis je dirais aussi des catastrophes sociales.
Tout à fait. Je rajouterais à ça qu'on voit les entreprises qui sont apprenantes et qui sont communicantes vont beaucoup mieux s'en sortir. Les entreprises où la communication ou le style de gestion est essentiellement top-down, je décide et vous exécutez, ne passeront pas bien à travers ça parce que les employés vont voir des façons de mieux faire, d'être plus agiles, de meilleurs outils, vont parler entre eux, ben nous on utilise ça, nous on fait ça. Donc les entreprises qui vont être capables d'être à l'écoute de leurs gens vont tirer leur épingle du jeu beaucoup mieux.
Pour faire du pouce par rapport effectivement à ce que dit Marie-Ève, là, quand on est dans une situation complexe, c'est-à-dire que quand on n'a aucune idée de ce qui va se passer, c'est là que l'intelligence collective a toute sa force. Et effectivement, le dirigeant qui est très traditionnel, qui est dans la posture de « moi, je sais quelles sont les décisions à prendre et je décide seul », ce sont des dirigeants qui ne sont pas outillés pour prendre des décisions complexes ou en situation complexe. Et effectivement, les dirigeants, les entreprises qui vont être dans cette posture d'apprentissage, d'ouverture, de capacité à demander aussi aux autres, à montrer entre guillemets le mot qu'on n'aime pas, sa vulnérabilité, ce sont probablement les entreprises qui vont être les plus aptes, en tout cas je l'espère, à passer à travers. Donc, c'est vraiment communiquer, demander à ses employés, demander à ses concurrents, demander ce qui se passe dans le milieu, faire preuve d'humilité, faire preuve d'ouverture. Effectivement, ce sont des clés au niveau du leadership.
On se lance dans des prédictions. Première prédiction, est-ce que le télétravail aura plus de place qu'avant? Est-ce qu'il y aura des entreprises qui, au retour, décideront de poursuivre leur activité 100% en télétravail?
Ben, personnellement, je pense que tout va arriver. Il va y avoir des organisations qui vont trouver que c'était une très bonne idée, puis que finalement, ben, c'est pas un si gros big deal que ça, que les employés travaillent à distance. Puis je pense qu'il y en a d'autres qui vont dire, bon, mais là, on retourne au travail, on revient à la maison, allez tout le monde, on revient au bureau, on a quelque chose à rebâtir, tu sais, des choses comme ça. Puis, ouais, je pense qu'on va voir de toutes les couleurs. Moi, ce que j'aimerais voir, bien sûr, c'est des organisations qui disent, waouh, on a testé quelque chose d'intéressant. On a testé la confiance, on a testé... mais c'est ça la clé, tu sais. Tester la confiance. Dans ce moment, on n'a pas le choix de faire confiance aux gens. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui peut bien arriver maintenant qu'on doit faire confiance aux gens? Tu sais, puis là, ça va être intéressant de voir ce cheminement-là, je pense.
Ça avait déjà commencé. C'est sûr que ça va continuer une vague comme ça. Puis, mais il y a déjà des entreprises qui avaient supprimé les bureaux au profit des espaces coworking.
Et moi, j'espère que justement cet aspect-là va aussi pousser des organisations à avoir des bénéfices du télétravail. Puis, j'espère qu'ils vont quand même en profiter pour faire une analyse de la situation en disant, ben, qu'est-ce qu'on a appris de cette situation par rapport au télétravail? C'est quoi les conditions gagnantes? C'est quoi dont j'ai besoin en tant que gestionnaire pour faire confiance à mes employés? Ah, contrôler le temps devant l'écran ne marchait pas. Donc, comment est-ce que je pourrais donner une valeur différente au niveau du travail? OK, au niveau de la communication, ça a été difficile sur tel aspect. Donc, quels sont les outils qu'on a pu tester pour améliorer ou en tout cas maintenir la communication? Et peut-être qu'au final, ça va permettre de recréer de la cohésion en se disant, ben, pour les travailleurs qui sont à distance, là, on le voit, j'en vois beaucoup là sur les réseaux sociaux, c'est on se crée des moments d'échange virtuels, comme nous, on est en train de s'enregistrer, on se voit aussi, on se fait des petits coucous. Mais je me dis que ça serait aussi l'occasion, je l'espère, pour les gens qui vont rester et qui n'ont pas le choix d'aller travailler dans leur bureau, peut-être que ça va être justement d'avoir des occasions où on va voir que la solidarité et la communication vont être renforcées entre des services ou des départements qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. J'espère qu'on va garder ça. Ces moments où on se rend compte que être tous ensemble de manière complètement désintéressée par rapport au travail, juste pour faire connaissance, mais ces moments-là, on va les garder parce que c'est ça aussi qui soude une équipe dans les difficultés.
Mm-hmm. La fameuse machine à café virtuelle, on ne l'a plus live. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour pallier à ça?
Oui, puis au niveau de comment on... Tu sais, ça dépend de la taille de l'organisation. Je suis tellement d'accord avec toi. Il va y avoir de tout. Mais il va aussi y avoir de tout dans les employés qui sont en télétravail présentement. Il y en a qui ont déjà hâte de retourner au bureau puis qui trouvent ça vraiment difficile. Puis il y en a qui sont bien puis qui voudraient, ils attendaient ça depuis des années puis de pouvoir le faire. Puis, tu sais, fait, à quelque part, c'est sûr qu'il y en a qui vont trouver ça dur si leur organisation revient aux anciennes pratiques parce qu'ils voulaient de la flexibilité. Il y en a qui vont pas nécessairement se formaliser, mais en général, là, j'ai l'impression que ça va peut-être donner des arguments aux agents de changement qui militaient pour un changement de culture. De dire, ben on l'a fait, t'as vu qu'est-ce que ça a donné, vous avez vu qu'est-ce que ça a donné, ça a bien été, on était capable de se parler. Tu sais, toutes les peurs là, qu'on parlait tantôt, là, qui étaient là avant, mais peut-être qu'on va être capable de dire, ben on les détricote une par une parce qu'ils n'ont pas vraiment leur raison d'être, c'est des perceptions. On a été capable de prouver qu'on y arrivait quand même.
Autre prédiction, quelles sont les opportunités et occasions que les entreprises vont saisir de cette situation de quarantaine forcée?
Si je peux me permettre, moi, je pense que c'est une occasion à saisir. Pour beaucoup d'organisations, c'est une occasion d'évoluer puis de changer nos pratiques. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent en ce moment, en tout cas chez nous, dans mon organisation, chez le MNTA. Il y a plein de belles initiatives humaines rassembleuses. Mais je pense que c'est important de saisir la balle puis de laisser la place aux leaders naturels, de poser des beaux gestes qui vont faire en sorte que l'ambiance va être plus légère. Puis l'ambiance va inspirer les gens justement à être motivés puis à continuer à sentir qu'ils font partie d'un tout. Donc, c'est ça. Donc, malgré le fait que ce soit une période difficile à passer et en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'organisation, malgré le fait que ce soit difficile, je pense qu'on n'a pas le choix de profiter de ce moment-là pour se poser des questions sur nos pratiques, sur notre culture, puis de voir à quel point on a des gens qui ont plein de talents et de potentiel chez nous. Puis voilà.
J'ose espérer que pendant cette période-là, au moins un bout de temps, ça permette de prendre le temps que les entreprises disent qu'elles n'ont jamais le temps. C'est un niveau de temps de réflexion, de planification, de stratégie. J'ose espérer également que ça va développer un réflexe au niveau de tout ce qui est ce que j'appelle la résilience, donc la capacité à structurer, à consolider certaines de ses activités, à améliorer ses processus, ses outils de gestion pour être prêt ou encore plus prêt la prochaine fois que ça arrive. Mais je te dirais, le faire pendant 2-3 semaines, c'est correct. Si tu commences à arriver à 2 mois, là, ça risque d'être vraiment très long et on risque de perdre le bénéfice là de cette planification, de ce temps de repos parce qu'on risque de repartir en mode panique. Puis tout va dépendre aussi des différentes entreprises. Si tu es dans un mode service, suivant ce que tu fais, tu peux continuer. Puis tu sais, tenir pendant 2 mois, si je prends mon exemple, en 2 mois, si j'ai mon formation, tout est tombé à l'eau. Mais en mode conseil, possiblement que je peux tenir pendant 2 mois. Si tu es une entreprise qui vient produire des services, et je pense aux hôtels, je pense aux buanderies, je pense aux services de restauration, là ça va être catastrophique. Je vois pas comment tu peux bénéficier ou profiter en tout cas de cette d'une aussi longue période pour améliorer ta capacité de gestion.
On termine l'épisode 1 de cette série Culture et quarantaine avec cette réflexion de Julie Tremblay-Potvin sur ce qu'elle espère que les entreprises saisiront comme opportunité durant cette situation exceptionnelle d'isolement et de télétravail.
C'est vrai que c'est une opportunité pour les organisations présentement. Puis moi, je dirais que c'est une opportunité à saisir ou à manquer, dans le sens où il y a des attentes de la part des employés en ce moment. Je pense que les gens s'attendent à ce que leur organisation fasse preuve d'un leadership qui est inspirant. Puis le leadership inspirant, ça peut être tout le monde, comme tu l'as dit, Laurent. Ça peut être tout le monde qui a un leadership personnel qui va avoir un impact positif sur ses collègues, qui va amener une dose d'espoir ou de d'appartenance et tout ça. Mais c'est surtout une opportunité de communiquer de façon transparente et de bien expliquer les besoins de l'organisation en ce moment. De façon sans cacher grand-chose, là, tu sais, en faisant confiance à l'intelligence de nos employés, des équipes, de comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'ils veulent le savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la crise va impacter notre organisation? Est-ce que même si en ce moment non, est-ce que vous avez en tête? Puis tu sais, c'est tout un art là de communiquer tout ça, mais c'est mieux de communiquer puis de communiquer régulièrement, chaque jour s'il le faut. Comme chef d'équipe, même si c'est juste comme chef d'équipe, là, tu sais, de dire, OK, chaque jour, on va se parler quand même, toujours même heure, même poste. Comment ça va? C'est quoi vos préoccupations? C'est quoi vos questions? Je vous dis ce que je sais. Je fais pas de prédictions. Je fais pas de suppositions. Je vous transmets pas mon anxiété personnelle, mais je vous dis c'est quoi les faits. Puis c'est, tu sais, je pense que d'avoir une communication ouverte, dans ça, ça peut changer vraiment la culture. Puis ça peut y rester après. Puis ça peut surtout, justement, garder le sentiment d'appartenance vraiment vivant. Puis ça va au-delà d'avoir des petites discussions un peu comme à la machine à café. C'est la discussion et plus d'affaires. Puis de faire confiance à l'intelligence puis à la capacité d'apprendre aussi des membres de l'équipe pendant cette période-là.
C'est ce qui complète l'épisode 1 de la mini-série Culture et quarantaine. Ici Mathieu Etu, je vous invite à suivre les prochains épisodes de cette série où l'on discutera avec différents intervenants sur l'évolution du travail et de la culture après quelques semaines de distanciation sociale. Verrons-nous quelques prédictions mentionnées dans cet épisode se réaliser? Merci de votre écoute. S'il vous plaît, partagez ce podcast à votre réseau et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Culture Inc.